Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. La traite est un phénomène complexe et en constante évolution, animé par les guerres et les conflits qui nécessitent des réponses globales et un effort commun à tous les niveaux pour le contrer. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son message rendu public vendredi à l'occasion de la 11e journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes, qui sera célébrée ce samedi en la mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakita. Dans leur message datant du jeudi 6 février, les membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, condamnent la violence abjecte qui continue à endeuiller la sous-région des Grands Lacs, plongeant la ville de Goma dans la détresse et le désespoir. Nous y reviendrons de l'actualité de l'Église, avant de parler de l'actualité sociopolitique sur le continent, de la situation toujours alarmante en République démocratique du Congo, pays pour lequel le Conseil des droits de l'ONU devrait décider vendredi s'il lance une mission internationale chargée d'examiner les exactions commises dans l'est de la RDC. Avant de conclure cette édition avec l'actualité internationale, nous accorderons de nouveau la parole au sociologue burkinabé Roger Dayamba Bendré, membre du Pacte PAN, le réseau panafricain de théologie catholique et de pastorale.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
À l'occasion de la 11e journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes, le pape François a rendu public vendredi un message intitulé « Ambassadeur de l'espérance, ensemble contre la traite des personnes ». Face à ce phénomène complexe et en constante évolution, alimenté par les guerres, les conflits, la famine et les conséquences du changement climatique, il y a nécessité d'apporter des réponses globales et un effort commun à tous les niveaux pour le contrer. Reliant au jubilé de l'espérance cette journée célébrée ce samedi en la mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakita, ancienne esclave soudanaise, le Saint-Père a rappelé que nous devons marcher ensemble en tant que pèlerins de l'espérance, y compris sur la route de la lutte contre la traite des personnes. Et à l'occasion de cette 11e journée mondiale de lutte contre ce fléau social, le pape François a reçu vendredi en audience au Vatican la délégation du réseau Talita Kum. Il les a reçus exceptionnellement dans sa résidence vaticane et non au palais apostolique en raison d'une bronchite. S'adressant à ses hôtes, l'évêque de Rome a souligné que face à ce drame et phénomène mondial qui fait des millions de victimes sans s'arrêter, nous devons unir nos forces, nos voix et appeler chacun à ses responsabilités. Tout en remerciant les membres du réseau Talita Kum, dont certains sont venus de très loin pour cette semaine de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains, le pape a encouragé toutes les organisations de ce réseau ainsi que tous les individus qui le composent à continuer d'unir leurs forces en plaçant les victimes et les survivants au centre de leurs préoccupations. Les activités du Jubilé 2025 se poursuivent et le bureau de presse du Saint-Siège a présenté vendredi matin les événements de l'année sainte dédiés aux forces armées, à la police et aux forces de sécurité. L'événement prévu les samedis 8 et dimanche 9 février est le deuxième grand événement jubilaire de 2025 après celui qui a eu lieu dans le monde de la communication à la fin du mois de janvier. Le prochain jubilé s'inscrit donc dans un horizon qui exige en premier lieu un appel à la paix parce qu'elle n'est pas simplement l'absence de guerre, ni un simple équilibre entre des forces opposées, mais une œuvre de justice qui envisage le respect des peuples, leur dignité et la pratique de la fraternité humaine. C'est ce qu'a souligné Mgr Fisichella, pro-préfet du Dicastère pour la nouvelle évangélisation, qui a également précisé qu'à ce jour, aucun changement n'a été apporté au programme officiel du jubilé. Le pape François, qui devrait être présent lors de la messe de la basilique Saint-Pierre, ce dimanche 9 février. Situation toujours alarmante en République démocratique du Congo, avec la prise de la ville de Goma dans l'Est par le groupe armé M23 qui a causé la mort d'environ 3000 personnes. Jeudi 6 février, dans un message, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC, constituée de la RDC, du Rwanda et du Burundi, a exprimé sa douleur et condamné cette violence abjecte qui ne cesse d'endeuiller la sous-région des Grands Lacs et qui a une fois de plus plongé la ville de Goma dans la détresse et le désespoir. Suivons les précisions de Françoise Nyamia.
Condamnant cette violence abjecte qui continue à endeuiller leur sous-région et qui a encore une fois plongé la ville de Goma dans la détresse et le désespoir, les évêques congolais, rwandais et burundais ont dans leur message fait écho au plan pastoral de l'ASEAC pour la paix afin d'interpeller les mandataires du pouvoir politique à s'inscrire dans une résolution de la crise qui privilégie la promotion de la dignité de tous et de chacun et le respect des droits des personnes et des peuples. Aussi, encourageant une conscience et un devoir de solidarité interhumaine, la SEAC invite toutes les filles et tous les fils de la sous-région à se souder les coudes pour briser le spectre de la division et de la haine. Et les évêques de recommander aux communautés chrétiennes de prendre en sollicitude les victimes, les blessés et les déplacés et de prier pour que la flamme de la paix ne s'éteigne pas et que l'espérance ne s'éloigne pas de leurs horizons. Aussi, la SEAC ne manque pas d'adresser une interpellation pressante aux prêcheurs en eau trouble, aux tireurs des ficelles dans l'ombre, aux fabricants de fausses nouvelles et aux relayeurs de l'intox et de produits toxiques à ne pas créer de nouvelles conditionnalités propices au chaos. Solidaires des populations souffrantes, les évêques congolais, rwandais et burundais les exhortent à ne se confier qu'au Christ, capable de porter secours à ceux qui sont dans l'épreuve.
Merci Françoise.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Réuni en session extraordinaire, le Conseil des droits de l'ONU devrait décider vendredi s'il lance une mission internationale chargée d'examiner les exactions commises dans l'est de la République démocratique du Congo, région en proie à une fulgurante offensive du groupe armé M23 et des troupes rwandaises. Si rien n'est fait, le pire est peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC, a alerté le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, devant le Conseil, affirmant que le risque d'escalade de la violence dans la région n'a jamais été aussi élevé. Kinshasa a demandé cette réunion extraordinaire avec le soutien de près de 30 des 47 pays membres du Conseil pour examiner la crise dans l'Est du pays où le M23 soutenu par le Rwanda a pris la semaine dernière le contrôle de la ville de Goma et poursuit son offensive. Le Burundi, qui soutient l'armée congolaise contre le groupe armé M23 et les troupes rwandaises dans l'est de la RDC, y a envoyé un bataillon supplémentaire, a affirmé une source sécuritaire vendredi, jour de l'ouverture d'un sommet extraordinaire régional consacré au conflit. L'armée burundaise est déployée depuis octobre 2023 dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'un accord de coopération militaire avec Kinshasa, à raison d'environ 10 000 soldats. Tension entre l'Afrique du Sud et les États-Unis après que Donald Trump critique une récente réforme agraire de la nation arc-en-ciel. Conséquence, les États-Unis ont arrêté la plupart des financements et des aides à l'Afrique du Sud, car selon le président américain, le pays de Nelson Mandela ne respecterait pas les idéaux américains de la propriété privée. Les précisions de notre correspondant Gabriel Porometo à Johannesburg.
On ne sera pas intimidé, a affirmé hier le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de son discours annuel à la Nation dans la ville du Cap. Une déclaration adressée à Donald Trump et ses ministres qui ont récemment mis en question le système politique et social sud-africain après avoir critiqué une récente réforme agraire qui permet des expropriations de terres. Selon le président américain, l'Afrique du Sud discrimine une certaine catégorie de personnes, notamment la minorité blanche, qui détient encore aujourd'hui la majorité des terres. En invitant Donald Trump à une discussion entre les deux pays, Cyril Ramaphosa a souligné que la loi qu'il a récemment promulguée en janvier est une façon de donner accès plus équitablement à la terre aux Sud-Africains, en respectant la constitution sud-africaine fondée sur les idéaux de justice, d'égalité et de solidarité. Certains détracteurs de ce texte craignent une situation similaire à celle du Zimbabwe après son indépendance, lorsque ce pays voisin de l'Afrique du Sud avait expulsé 4000 fermiers blancs de leurs terres au profit de fermiers noirs, ce qui avait fait effondrer son économie. Mais d'autres partis comme l'Alliance démocratique, en coalition gouvernementale avec l'ANC, le parti de Cyril Ramaphosa, précisent que la loi ne permet pas à l'État de saisir ses terres de manière arbitraire et qu'elle exige une compensation. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
Un rendez-vous à noter, le 8 février, l'église universelle célèbre Sainte Joséphine Bakita, jeune soudanaise qui fut faite esclave avant de devenir religieuse. C'est aussi en cette date que sera lancée une campagne de sensibilisation pour la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne sur le continent africain. 22 000 personnes qui seront connectées à travers 31 pays d'Afrique et d'ailleurs vont échanger au cours de cet événement organisé par le Pacte PAM, le réseau panafricain de théologie catholique et de pastorale. Nous en parlons avec Roger Dayamba Bandré, sociologue burkinabé et membre de ce réseau.
La stratégie, c'est le lancement officiel le 8 février et nous allons step by step. Et c'est vrai qu'il y aura des personnes qui seront réunies en présentiel dans plusieurs pays. D'autres vont nous suivre au niveau donc de la diaspora.
Vous avez fixé 2030 comme horizon de votre campagne de sensibilisation, mais le projet est plus vaste et même plus ambitieux. Pensez-vous qu'à l'horizon 2030, vous aurez atteint vos objectifs, notamment une grande prise de conscience devant conduire à des actions conséquentes pour l'éradication de la traite des êtres humains?
Il faut dire que le Pacte PAM, lorsqu'il décide de s'engager en cette année jubilaire, où nous sommes appelés à être dans l'espérance, des porteurs d'espérance. Et en Romains chapitre 5, verset 5, on nous dit que l'espérance ne déçoit pas. Au nom de cette espérance que nous portons, nous croyons. Et avec les moyens dont nous disposons en termes de formation, les ressources humaines dont nous avons, et voilà, toute notre ambition, l'Esprit Saint de Dieu est avec nous et nous allons véritablement nous engager dans cette espérance pour atteindre nos objectifs et libérer effectivement les captifs. C'est ce que j'ai pu donner comme élément de réponse.
Merci beaucoup. Comment votre réseau pense faire les plaidoyers auprès des décideurs africains pour les impliquer dans une telle campagne et traduire ses efforts en des actions concrètes?
Oui, en effet, le pape, dans son discours d'orientation pastorale, nous avertit sur ces questions. Nous ne pouvons pas venir à bout de cette pratique si nous évoluons tout seuls. Nous voulons impliquer toutes les organisations gouvernementales. Et déjà, nous nous réjouissons que la vice-présidente de l'Ouganda a donné sa disponibilité à être avec nous le 8 février au lancement donc de cette grande campagne. Au Burkina Faso particulièrement, et les structures qui ont été évidemment les structures de sécurité qui gèrent les questions des droits de l'homme, on sent que les autorités gouvernementales sont sensibles à cette question et sont prêtes à s'engager. Et donc, je pense que nous sommes déjà sur une bonne base. Et nous rendons grâce à Dieu pour le fait que plusieurs autorités gouvernementales sont sensibles à cela et sont prêtes à nous accueillir, à discuter avec nous pour s'associer afin que nous puissions relever ce défi de la valorisation des droits de l'homme et donc de la libération donc de ceux qui sont pris en captivité malheureusement par leurs propres frères.
Merci Monsieur Roger Dayamba Bendri. À l'approche de ce webinaire sur la lutte contre la traite des êtres humains, auriez-vous un appel particulier à lancer?
Oui, le 8 février, c'est la journée où l'Église universelle célèbre Sainte Bakita, cette sainte-là qui a été prise en captivité et après qui a été libérée par le Seigneur et a décidé de donner sa vie à Dieu pour soutenir les personnes qui vivent l'esclavage. Alors donc, vraiment, j'invite l'ensemble des personnes qui nous écoutent actuellement à un engagement véritable et à ne pas fermer les yeux parce que le pape dit que nous sommes tellement habitués à cela. Cette réalité de la traite, de l'esclavage moderne est tellement dans notre quotidien au point où nous ne sommes plus sensibles. Ce n'est pas normal. Quelle que soit votre confession religieuse, votre bord idéologique, nous devons nous engager pour valoriser la dignité humaine. Le Seigneur nous y appelle.
Vous venez de suivre Roger Dayamba Bandré, sociologue burkinabé, membre du Pacte PAN, le réseau panafricain de théologie catholique et de pastorale, des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Refermons à présent cette édition avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité internationale de la semaine avec les États-Unis d'Amérique. L'administration Trump a décidé de réduire le nombre de personnels de l'agence humanitaire USAID. Les détails avec Loïc Loury.
Sur les plus de 10 000 employés de l'USAID, dont près des deux tiers à l'étranger, à peine 290 resteront en poste selon plusieurs médias. L'administration Trump avait prévu, à compter d'aujourd'hui, de placer en congé administratif l'ensemble des personnels de l'agence. Depuis l'arrivée du nouveau président, l'USAID a fait figure de victime exemplaire des coupes drastiques opérées au sein des institutions fédérales. La quasi-fermeture de l'agence, placée sous la tutelle du département d'État, va continuer d'entraîner des conséquences en cascade pour l'aide internationale d'abord, qui bénéficiait de son budget, 40 milliards de dollars par an, mais aussi pour ses sous-traitants ou ses employés locaux partout dans le monde. Ce n'est pas une punition, affirmait hier le secrétaire d'État Marco Rubio, qui dénonce depuis plusieurs jours l'insubordination des personnels de l'USAID, lui qui pourtant avait loué pendant des années un relais indispensable du soft power américain. New York, Le Écloré, Radio Vatican.
Par ailleurs, la Cour pénale internationale a condamné vendredi la décision du président américain et s'est engagée à continuer de rendre justice dans le monde. Le président américain, qui reproche à la CPI d'avoir mené des actions illégales, a signé jeudi un décret interdisant notamment l'entrée aux États-Unis à ses dirigeants et prévoit de geler tous leurs avoirs détenus dans ce pays. Toujours aux États-Unis d'Amérique, un condamné à mort, Demetrius Frazier, a été exécuté jeudi en Alabama avec une méthode critiquée, l'inhalation d'azote. Israël et le Hamas ont décidé de procéder à un nouvel échange de prisonniers cette fin de semaine. Valérie Ferrand.
Pour les organisations humanitaires, si les bombardements israéliens se sont arrêtés, la guerre contre les populations civiles se poursuit. L'aide humanitaire transite actuellement uniquement par trois passages terrestres et les chargements sont soumis à toute une procédure de la part d'Israël qui ralentissent gravement leur passage. La puissance occupante continue également d'interdire l'entrée de machines pour dégager les gravats ainsi que des produits agricoles tels que des fertilisants pour relancer ce secteur crucial. Israël interdit également l'entrée de matériel scolaire, continuant ainsi à priver les enfants de la bande de Gaza de leur droit à l'éducation. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé sur le territoire libanais deux sites militaires qui contenaient des armes du Hezbollah en violation de l'accord de cessez-le-feu. La présidence de l'Ukraine a déclaré vendredi être prête à ouvrir un couloir humanitaire pour permettre l'évacuation de centaines de civils russes vivant dans les parties qu'elle occupe de la région de Koursk, si Moscou le demande. Volodymyr Zelensky a salué jeudi la livraison à son pays de premiers avions de combat Mirage 2000 par la France qui renforceront les capacités de l'Ukraine à faire face à l'invasion russe. Un tribunal russe a condamné à 17 ans de prison un habitant de la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, accusé d'avoir recueilli et remis aux forces ukrainiennes des informations sur le déploiement et les mouvements des troupes russes entre mars 2022 et août 2023. La France a organisé jeudi et vendredi un week-end culturel sur l'intelligence artificielle avant le sommet samedi et dimanche. Il s'agit d'une plateforme d'échange où chercheurs, créateurs et grand public ont réfléchi à la place de l'intelligence artificielle dans les disciplines telles que l'écriture, les arts visuels, la musique et les images. Par ailleurs, un plan de lutte contre les mutilations sexuelles féminines en France, dans la région de Paris, a été dévoilé jeudi 6 février à l'occasion de la Journée internationale contre les mutilations génitales, avec pour objectif un meilleur accompagnement des milliers de victimes. Selon le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, le nombre de femmes excisées en France est estimé à 125 000.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, très chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.